là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, les rigors, c'est chaque semaine sur l'École Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les rigors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, ce soir, on va faire plein d'anglais et on va utiliser plein de mots compliqués, plein de mots hype. On va parler de sharing economy, d'ubérisation, etc., etc. Et on va parler de ça parce que peut-être que vous avez pu apercevoir que depuis quelques jours dans Reims, exactement 15 jours, ouais, vous aviez des petits cyclistes avec qui étaient habillés en vert avec des grosses boîtes dans le dos. Puisqu'en effet, puisque depuis quelques jours, Reims vient de rejoindre une des 17 villes, je crois, qui est le lieu d'activité de la société Deliveroo. Alors la société, et la société Fecht aussi, société Fecht et Deliveroo, ce sont des sociétés, des plateformes numériques qui permettent, enfin qui mettent en relation des livreurs et des restaurants. Principalement, on est dans le resto de bouffe. Mais bon, voilà, on va entrer dans les détails et on va essayer de décrire et tout ça. À la fois ces nouvelles formes de travail et donc ces nouvelles formes d'exploitation, mais surtout aussi, ce qui nous intéresse, nous, c'est ces nouvelles formes de lutte qui touchent aussi ces nouvelles formes de travail. Alors, mon introduction est un peu pourrie, mais heureusement, avec nous, on a Jérôme. Jérôme, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Non, mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Jérôme, tu vas pouvoir nous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans, ouais, puisque toi, d'une part, t'as été assez longtemps coursier à vélo, ouais, chez Deliveroo notamment, mais pas que. T'as été aussi chez Ticket Easy, donc les premiers qui sont arrivés justement dans ces formes de travail, hein. Ce qu'on appelle l'économie collaborative, entre guillemets, parce que bon, c'est assez impropre comme terme. Et puis surtout, Jérôme, cette expérience, elle t'a amené à participer à la constitution de différents collectifs et aujourd'hui essayer de tenter de participer à l'organisation, de lutte d'une part et puis de défense des droits de ces coursiers livreurs. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces différents collectifs qui existent en France et où on en est aujourd'hui, parce que il y a une actualité un peu brûlante, il y a de la répression, mais bon, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs de ces différents collectifs, à la fois nationaux et puis locaux?
Bon, en fin de compte, c'est difficile de comprendre un petit peu l'utilité et la présence dans les réseaux sociaux de ces collectifs, et pas que les réseaux sociaux, mm-hmm, mais sans faire un petit peu d'histoire, il faut savoir que ce qu'on vit dans l'auto-entrepreneuriat de masse, mais surtout dans l'abus de l'auto-entrepreneuriat des plateformes, c'est ni plus ni moins que le travail et la tâche en fait du 19e siècle. Elles ont repris un système très très rodé, c'est-à-dire qu'en fin de compte elles se sont appuyées sur la liberté de pouvoir bosser un petit peu quand on voulait, comme on voulait. Donc elles ont parlé de liberté au lieu de parler de libéralisme. En fait, c'est ni plus ni moins que du libéralisme, et c'est le libéralisme et pas la liberté qui a donné lieu au 19e siècle au tâcheronnage, en fait, parce que n'importe quel ouvrier, travailleur était pouvait contracter avec un patron, avec un donneur d'ordre, parce que ça faisait de deux citoyens égaux. Merci la révolution. La révolution bourgeoise. Donc, en fin de compte, on en est là maintenant parce que, en fin de compte, c'est pas des bourgeois qui sont en moyenne, c'est des plateformes, des startups, c'est des millions, des milliards de capitaux qui ont été offerts à des startupeurs, à des ingénieurs, à des développeurs pour mettre en place des plateformes qui nous ramènent donc il y a un siècle, il y a 150 ans à la comment ça s'appelle marchandage en fait, tiens là, le fournissage, la fourniture de bras à des clients ou à des commerçants. On en est là. Donc, à partir du moment où on en est là et qu'on n'a plus de droits parce qu'on est juste des indépendants, entre guillemets, des tâcherons, des petits auto-entrepreneurs, mais auto-salariés, on est arrivé à un système qui fait que ces plateformes-là font ce qu'elles veulent, absolument ce qu'elles veulent des travailleurs, en fait, des livreurs. Bon, on va parler des livreurs à vélo. Je parle des livreurs plutôt que des coursiers. Les coursiers sont des salariés dans des PME. Je préfère faire le distinguo parce qu'ils n'ont pas du tout la même vie que nous. Donc, en fin de compte, ces travailleurs indépendants, hein, toujours avec les énormes guillemets, se font ramasser de tous les côtés, en fait, se font cuisiner à toutes les sauces, ils livrent, mais ils se font cuisiner par les plateformes qui décident de toutes les méthodologies de travail, de la rémunération, des types de contrats, des horaires, des uniformes, des sanctions, des notes, quoi. Donc, à partir de là, ça les met dans une situation, les plateformes de père, comment dire, d'hyper prédation, parce que si t'es pas content, ben tu vas voir ailleurs en tant que livreur. Et puis bon, on sait ce qu'est la condition actuelle au niveau du travail, donc c'est pas toujours facile de vendre, de répondre. Donc voilà, les collectifs sont nés pour ça, parce que mine de rien, on revient au début des luttes sociales qui sont nées justement des abus du tâcheronnage du 19e siècle. Et donc les syndicats se sont créés à cette époque-là. Au début, ils étaient même interdits, les syndicats. ils ont été autorisés vers la fin du 19e siècle. Et ben, on en est exactement là, quoi. On en est à recréer du collectif. Alors au départ, on veut dans la rue, les jeunes veulent pas trop entendre parler de syndicats parce que les syndicats c'est un truc de vieux avec des moustaches, avec un mégot, avec une chasuble de la CGT, puis un mec qui est un petit peu revêche, qui est pas de l'amour en fait à la télé. Mais bon, on en est là parce que grosso modo, il faut protéger nos dos, on va dire, des gros sacs qu'on essaie de mettre dessus et de remplir avec tout un tas de contraintes liées au travail. Donc voilà, il faut recréer du collectif pour recréer du syndicalisme, pour recréer du rapport de force, en fait. Donc voilà. Voilà comment est née l'idée des collectifs locaux et puis d'un collectif que j'essaie national autour de ce que j'ai créé, du groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle YouLive, en fait, U-L-I-V-E. France YouLive, en anglais. Voilà, on parlait d'anglais tout à l'heure. YouLive, ça veut dire ni plus ni moins que tu vis en anglais. Et puis, c'est surtout l'union des livreurs à vélo engagés. Parce qu'à un moment, il s'agit plus d'être un livreur à vélo, il s'agit d'être un livreur à vélo engagé, conscient et militant.
Alors, ouais, je crois que c'est vraiment très intéressant la manière dont tu présentes la chose en mettant à la fois en parallèle des choses qui sont historiques, donc des dynamiques qui existent depuis toujours dans le capitalisme et dans le rapport à l'exploitation salariale, même si là on pourra discuter de ce qu'est le salariat, on avait déjà eu une discussion en antenne, et puis effectivement cette population qui est une population plus ou moins jeune, mais en tous les cas urbaine, hein, avec une culture urbaine, hein, on parlait de la culture du biking, le coursier ou le livreur à vélo, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans des grandes agglomérations de des grandes métropoles comme New York, comme Londres, etc., qui est une culture, hein, avec une culture de la liberté et puis une culture de la technologie, donc qui apparaît comme moderne, mais qui en fait nous ramène à des choses carrément sur l'embauche, sur le tas, en place de grève. Et paradoxalement, il y a eu une accélération de la prise de conscience, c'est-à-dire que toi, tes opinions, mais en tous les cas ton point de vue là-dessus, il était déjà formé auparavant, t'avais déjà quelque chose, ou c'est vraiment ton expérience qui a fait que tu es arrivé à cette réflexion-là?
Non, si j'avais été politisé, si j'avais été syndicalisé il y a 3 ans, je serais jamais allé là-dedans, parce que j'aurais peut-être pris conscience. Mais encore que à l'époque, c'était difficile de prendre conscience parce que c'était tellement novateur. En 2014, on parlait du beurre. On parlait du beurre, mais tu vois, les chauffeurs Uber, étaient contents en fait de leur situation en 2014. Ouais. C'est pas eux qui manifestaient, c'était les taxis. Les mecs Uber, ils allaient plutôt dans des contre-manifestations à coup de prime. Uber les payait 100 balles par jour pour aller contre-manifester, faire c'est comme clair. Si eux ils étaient contents. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit encore chez les plateformes de livraison à vélo. T'as toujours un ou deux trois mecs pour dire qu'il est content, qu'il est jeune, qu'il est free et qu'il gagne de l'argent à faire du vélo et qu'il kiffe quoi. Enfin. En 2014, je suis allé dedans parce que moi, je voulais juste gagner ma vie en faisant du vélo. Je devais être parmi les 10-15 premiers à Paris à rentrer sur ce type de plateforme. Il n'y en avait qu'une, de toute façon. Il n'y avait pas Taxi, il n'y avait pas Deliveroo, il y avait Toc Toc Toc, qui était une plateforme française qui existait qu'à Paris. Donc, si tu veux, oui, on peut dire que j'ai fait partie des premiers. Et donc, voilà, moi, je gagnais ma vie en faisant du vélo. C'était ce que je voulais faire. Mais parce que dès le départ, je voulais pas juste gagner de l'argent, je voulais juste faire un truc un petit peu utile pour la société. Je voulais décarboniser ma personne, en fait. Je voulais décarboniser ma présence dans Paris, c'est-à-dire que bosser, mais avec un vélo. Il y avait un petit côté militant, mais disons, éco-citoyen, pour pas dire écologiste. On va pas jusque-là, disons éco-citoyen. Après, je me suis aperçu à l'usage, au bout de quelques semaines, qu'en fin de compte, la façon dont on me demandait de travailler, elle n'était pas du tout aussi libre qu'on me l'avait présenté, quoi. Et j'étais pas payé ce qu'on m'avait dit, tout un tas de choses. J'étais noté, pas principalement, mais je connaissais des gars, parce que je les croisais souvent, les autres, devant les restos, qui étaient sanctionnés, à qui on mettait la pression à tout un tas de niveaux. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et j'en ai parlé à un juriste, et c'est lui, à ce moment-là, au bout de six semaines de mois, c'est lui qui me dit, mais Jérôme, en fait, la façon dont tu bosses, tu m'as fait lire ton contrat, en fait, t'es un salarié, quoi. Je dis, mais non, je suis pas salarié, je suis auto-entrepreneur. On me fait des factures. Il me dit, non, parce que, et c'est là qu'il m'explique, en fin de compte, ce que c'est que la différence fondamentale, et pas du tout idéologique, hein, pas du tout dogmatique, la différence fondamentale, c'est-à-dire les faits, qui font la différence entre un salarié et un indépendant. C'est pas du tout le choix initial de l'un, du travailleur ou de la plateforme. C'est pas un choix. Le salariat ou l'indépendance, c'est pas un choix, c'est des faits. C'est des faits qui sont définis dans le code du travail via des jurisprudences qui ont été décidées depuis des dizaines d'années, qui font jurisprudence. Et donc, tu es indépendant à partir du moment où tu choisis la façon dont tu travailles. Par contre, la façon dont tu le travailles, c'est pas le contrat que tu signes, c'est la façon dont tu travailles. Donc, si tu portes un uniforme, si tu es assujetti à des heures, si tu es noté, si tu appartiens à une base de données qui ne t'appartient pas, qui appartient à une plateforme, patati patata, tout ça font que, de fait, t'es pas un indépendant, t'es un salarié. Il faut savoir ça, parce que on a beau se croire salarié, parce qu'on nous abreuve pendant à longueur de temps de liberté, de coolitude, de hypitude, mais on ne l'est pas. Il faut juste savoir qu'on est juste des salariés déguisés, que le salariat déguisé, c'est pénalement répréhensible, c'est juridiquement de toute façon répréhensible, et que il faut qu'on en sorte. Pas pour aller vers du salariat dur et dur et bosser au SMIC pendant 30 heures par semaine, mais pour sortir déjà, pour récupérer cette liberté qu'on nous a vendue, mais qu'on nous loue surtout, qu'on nous vend, et là, elle a récupéré, mais on la récupérera pas sans un rapport de force.
Je crois que c'est vachement important ce que tu dis, parce que pour la critique, et on ira peut-être un peu plus loin au cours de l'émission, mais on n'est pas sur une critique idéologique en disant les indépendants c'est mal, etc. D'ailleurs, au début du mouvement ouvrier, il y avait beaucoup d'anarchistes qui étaient d'ailleurs des artisans assez hautement qualifiés, qui voyageaient, qui étaient indépendants, qui n'avaient pas de patron. C'est pas sur ces choses-là. C'est de dire que effectivement, alors que on vous fait croire que vous êtes indépendant, il y a un vrai rapport de subordination entre vous et la plateforme, et que du coup la plateforme, elle, se sert du statut d'auto-entrepreneur pour avoir tout le beurre, l'argent du beurre, cul de la crémière, la boulangerie et les miettes, et que du coup c'est vous qui assumez, on va dire, la part sociale ou la part de protection sociale, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans l'exploitation à la fois individuelle, mais on dirait l'exploitation collective, parce que quand vous avez un pépin, c'est la société qui vous prend en charge. En gros, on est dans le capitalisme, j'allais dire absolu, normal. Socialisation des pertes et privatisation des profits, quoi. C'est-à-dire que quand
on
ça marche, c'est pour ta gueule.
On est dans le monde idéal de Fillon, hein. C'est lui qui nous a pondu l'entrepreneuriat en 2008. Et en plus, ce qui est en train de se passer avec Fillon, c'est que, enfin, il a des velléités pour 2017. Je sais pas sur quoi il se repose, mais bon, admettons. Ce type-là, il a compris qu'en 2008, il avait fait une connerie, parce qu'en 2008, il a créé le statut d'auto-entrepreneur, mais il a pas mis
il n'a pas mis dans la recette le bouquet garni qui ferait que on peut se rebeller tout de même. Il a oublié de mettre dans sa loi un empêchement de requalification. Et ben dans ses projets de 2017, dans son programme, mm-hmm. il est prévu un nouveau statut d'indépendant avec ce coup-ci dans la recette, le petit bouquet garni qui empêche l'indépendant pendant 3 ans de requalifier son statut. T'imagines.
Oh, 3 ans.
Et en plus, il nous fait du fignon, quoi. J'ai fait une connerie, mais bon, je vais en refaire une plus grosse, quoi. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'on entend sur lui depuis 3 mois. C'est super drôle de voir que ça vient de lui, quoi. J'aurais voulu l'écrire dans un film, j'aurais pas fait de pire, quoi.
Et alors, toi, du coup, tu as mené des actions au prud'homme contre deux de tes employeurs. Où est-ce que ça, pour requalification, justement, de contrat, où est-ce que ça en est? Et est-ce que tu as des échos sur des victoires qui auraient pu être atteinte ou gagnée justement sur des trucs similaires?
Alors perso, j'ai attaqué Toc 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 en 2015. Alors le temps juridique est super long. Là, c'est que on est à l'échelle du lombric ou du ver de terre, quoi. Alors que nous, on est sur des vélos dans Paris. Donc il faut apprendre à prendre conscience de cette rapidité, hein, entre guillemets. Et donc voilà, tu fais ça, tu laisses ton avocat t'en occuper, ça mijote pendant 3 ans et après bon. Là, en fin de compte, on a attaqué en 2015. On est toujours en attente d'une date pour un départage. Alors on a une première décision. La première décision, c'était que, grosso modo, les prud'hommes ne se prononcent pas ou se reportent en départage. C'est-à-dire que les 4 conseillers, pour ceux qui savent un peu comment ça marche, t'as 2 conseillers patronaux, t'as 2 conseillers salariés, pas des juges, des conseillers volontaires. Et donc, ils n'ont pas réussi à se départager. Okay. Parce que le fond de l'histoire est tellement, justement, important, fondamental, qu'ils ont préféré refiler le bébé à un juge professionnel qui s'appelle un juge en départage, en fait. Et donc on attend la date pour cette audition, pour cette nouvelle plaidoirie. Mais bon, j'ai bon espoir parce que le dossier est tellement énorme que justement mon avocat m'a dit plus ça dure longtemps, mieux c'est pour toi, parce que ça veut dire qu'en fait ils savent pas trop comment encaisser le truc et que de toute façon voilà, ils cherchent dans le code du travail. Dans le code du travail, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour requalifier, justement, parce que tous les indices qu'il y a dans mon contrat, dans mon dossier qui fait 15 cm d'épaisseur, sont là pour justifier justement qu'en effet j'étais un salarié déguisé et que bim bam boum, il n'y a pas à tergiverser, quoi.
Ah ben tu donnes des extraits de contrats, d'un contrat délivré, d'un contrat type de plateforme sur ta page Facebook. La subordination elle est claire, quoi. Que ce soit seulement sur l'uniforme, mais sur les taux horaires, etc. Enfin, je veux dire, c'est limpide, quoi.
Bah, elle est claire parce que ça fait 2 ans qu'on en parle. Enfin, ça fait 2 ans que j'en parle et puis que je commence justement à avoir un petit peu de visibilité média. Ça fait 2 ans que je parle de ça et puis les VTC aussi remettent le couvert et puis Mélenchon en ce moment. Donc maintenant on le sait. Maintenant c'est plus la question de savoir est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on ne sait pas. Tout le monde le sait, mais les gens font avec. Les livreurs, ça les arrange et je ne leur jette surtout pas la pierre. Ils essayent de faire comme ils peuvent et ils tentent le coup. Maintenant, moi ce que je dis, c'est allez bosser pour des plateformes, mais allez bosser en conscience, en fait. Parce que on sait maintenant qu'il va se passer quelque chose, va y avoir des requalifications et que ce système-là va se péter la figure. Allez-y, allez prendre un petit peu de blé, mais surtout prenez des pièces pour attaquer un jour au prud'homme, parce que ce sera comme ça que vous gagnerez vraiment de l'argent avec les plateformes, c'est en les attaquant en justice, et certainement pas en allant rouler et faire des bornes en vélo, quoi.
Et alors, est-ce que tu y allais oui, je pense que oui. Est-ce que tu as eu un contact avec les syndicats de la région parisienne et comment tu as été reçu? Oui, mais au début,
avec les plateformes, d'ailleurs.
au début, quand tu es allé les voir et que tu voulais parler de cette situation-là, je suppose que tu es tombé sur des gens qui effectivement, enfin, je sais pas d'ailleurs quelle a été la réaction.
Non, en fait, non, ça s'est pas passé du tout comme ça. En fait, l'avantage qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite dame au gouvernement qui s'appelle Myriam El Khomri qui nous a pondu une belle petite voix bien pourrie, qui a mis tout le monde dans la rue, et c'est comme ça que j'ai pris plein de contacts avec des gens, notamment de la CGT, parce que il n'y avait pas grand chose d'autre dans la rue à cette époque-là, quoi. Il y avait la CGT, et puis quelques cagoules devant. D'ailleurs, j'étais entre les cortèges de tête et le carré de tête, c'était des fois un petit peu chaud. C'est ce qui fait qu'un jour, il y a un monsieur de la CGT qui m'a un petit peu attrapé par la capuche et qui m'a dit « Non, Jérôme, viens avec nous parce que sinon tu vas te faire caillasser. Et qu'est-ce que tu fais avec ton vélo tout seul ?» J'étais tout seul en manif, quoi. Et donc là, j'ai créé des liens avec la CGT et puis voilà, on s'est vu, on s'est regardé, un coucher de soleil, petite musique. Et voilà, tout ça pour dire qu'on a créé des liens, justement, c'était pas un gros moustachu, c'était pas... c'est pas une caricature en fait. Le type, il était là pour défendre des gens. Il s'occupe notamment du service à la personne, donc tout un tas de les nounous, les femmes de ménage, et les gens qui sont justement en situation hyper précarisée, bien plus que nous. Donc il a l'habitude du truc. C'est comme ça que j'ai noué des contacts avec la CGT. Ils m'ont invité chez eux à Montreuil pour m'auditionner en fait, pour ce que j'avais raconté. Je leur ai raconté tout ça. Et quelques mois plus tard, la CGT, pendant un grand congrès, c'était l'été dernier, ils ont décidé d'ouvrir leurs statuts, les statuts de la CGT, aux travailleurs en fait des plateformes numériques, parce qu'on n'est pas des salariés vraiment, on est des salariés déguisés, et donc eux, ils ont décidé de faire tomber ce masque en fait, et de pouvoir nous affilier à la CGT. Mais bon, après voilà, on peut aller dans n'importe quel autre syndicat. Je sais qu'il y a des petits jeunes qui sont plus proches de la CNT, de Solidaire, des choses comme ça. L'important c'est qu'on se syndicalise. Quel que soit le syndicat, parce que notamment maintenant dans la loi El Khomri, quand même, on a la possibilité de syndiquer. Donc surtout, ne faisons pas l'impasse là-dessus, parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Les syndicats sont pas juste des gens qui font des merguez et qui crient fort. C'est des gens qui ont des juristes derrière, des avocats, qui ont des structures, qui ont des méthodes, qui ont des logistiques, qui ont des moyens énormes que nous, des petits groupes Facebook, si tu veux, on n'a pas. Donc il faut qu'on aille s'appuyer sur des gens comme ça, parce que les plateformes qu'on combat en face, elles ont des millions, voire des milliards, quoi. Donc faut surtout pas les sous-estimer. La dernière chose que je ferais, mais en face, faut leur opposer un vrai rapport de force.
Et je crois que tu parlais de la loi travail. Je crois qu'il y a un certain article dans cette loi qui va faire finalement vous boucher les prud'hommes, puisque vous ne pourrez plus aller aux prud'hommes.
Non, justement, ça c'était dans la première version.
D'accord.
C'est l'article, enfin, c'est la linéaire, en fait, qui m'a fait descendre dans la rue. C'est là que j'ai rencontré la CGT. Il y avait un empêchement dans cette loi travail qui faisait que tout inscrit au registre du commerce et de société, le fameux RCS que personne ne connaît, mais bon, où il faut être inscrit en tant qu'entrepreneur, tout inscrit au RCS t'empêchait de requalifier ton contrat. Ça, c'était dans les premiers projets. Sauf que dans le dernier projet, celui qui est passé, ce truc-là a giclé, en fait, a été retiré parce que justement, c'est trop énorme, en fait. Même les sénateurs n'ont pas voulu. Et puis quelques syndicats ont quand même le coup dessus. Et donc, ce truc-là a été retiré. Ne reste dans la loi travail, dans l'article qui concerne les travailleurs des plateformes numériques, parce qu'on a un article dans la loi travail, rien que pour nous, rien que pour les travailleurs des plateformes numériques, alors qu'au départ, c'est la loi pour les salariés. Mais déjà, rien que, tu vois, implicitement, ça fait nous des salariés, parce qu'ils mettent un article des travailleurs des plateformes numériques dans la loi travail salarié. Donc, il est marqué qu'on a le droit de se syndiquer, qu'on a le droit de se déconnecter, qu'on a le droit que les plateformes prendront en charge une part de cotisations sociales et patates et patata. Je la fais courte, hein, aux gens d'aller se renseigner sur le dernier, la dernière version de la loi travail. L'article 60, en fait, parle de ça. D'accord. Enfin, grosso modo, voilà. Donc oui, il y avait au départ, en fin de compte, ce dont je parlais tout à l'heure sur Fillon, dans la loi travail du PS, il y avait l'empêchement de requalifier son statut devant les prud'hommes. Donc évidemment que ça pouvait pas passer.
Alors, pour donner un petit peu du concret aux auditeurs et aux auditrices, quand on parle de statut et tout ça, ça se traduit quand même par une réalité sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu pourrais résumer à la fois la journée, le quotidien, mais aussi le statut d'un livreur à vélo, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire justement être auto-entrepreneur chez Deliveroo ou chez Take-It-Easy ou chez Foodora, etc. Pour qu'on comprenne bien, quoi. C'est à la fois vas-y, je te laisse décrire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple?
C'est en fin de compte, les plateformes, elles sont c'est des plateformes c'est des libéraux. C'est des libéraux, donc quand elles arrivent sur un marché, elles ont besoin de mecs, elles ont besoin de livreurs. Pourquoi? Parce que le livreur, déjà, il assure les commandes, les quelques commandes qu'il y a au départ, parce qu'il n'y en a pas des masses. Et surtout, les livreurs, ils assurent la visibilité. Mm-hmm. Et pour ça, t'es obligé de porter les vestes, en fait, les vestes des livreaux, ou Foodora pas encore à Reims, mais ça va venir, et ou Uber aussi, qui est dans le game. Donc t'es obligé de porter des vestes, patata. Donc ça, c'est déjà une première contrainte. C'est pas censé, en tant qu'indépendant, porter des uniformes. C'est un peu tien, quoi. Et donc, à partir du moment où la plateforme, elle rentre là-dedans, elle te paye, on va dire, correctement. T'as des minimums garantis. T'as ce qu'on appelle des bonus, des primes, des choses comme ça, pour attirer en fait les mecs, pour attirer les mecs dans ce métier-là. Venez faire du vélo, c'est cool, vous allez gagner 15-20 euros de l'heure. Ok, admettons, au début, déjà, c'est pas si clair que ça, mais tu dis que tu vas rentrer dans le game, tu vas rentrer 15-20 balles de l'heure. Ça c'est au début, pendant 2-3 mois. Après, tu t'aperçois que les boîtes, au début, tu commences à 5 ou 6. Regarde, tu me disais à Rennes, il y a 7 livreurs. À Rennes, il y a 7 livreurs. Rennes, c'est en fin de compte Paris, il y a 2 ans. Chez Deliveroo, je suis arrivé, c'est Paris, on était une vingtaine, quoi. Chez Deliveroo, ou chez Kizzy, parce qu'à chaque fois, j'ai fait les débuts des plateformes, parce qu'il se trouve que j'ai bossé dans une première plateforme, on a eu des problèmes, je suis allé bosser dans une qui venait d'arriver, j'ai eu des problèmes avec la deuxième, parce que je me suis aperçu de la douille aussi, je suis allé bosser chez Foodora qui venait d'arriver, donc au début, j'ai vu les débuts des plateformes, donc je suis un petit peu un expert en séduction des plateformes. qui sont là pour vraiment vraiment draguer les mecs, quoi. Donc on est payé grosso modo à rien faire, sauf qu'au bout de quelques mois il y a de plus en plus de coursiers, de livreurs, mais comme c'est plus facile d'avoir des coursiers que des clients, parce que les clients, ils vont bosser, ils vont chercher des commandes à droite, à gauche, ils essayent, ils sont volatiles, ils sont versatiles, les clients, donc c'est plus facile d'avoir des coursiers que des clients, donc il y a de plus en plus de coursiers, donc de moins en moins de commandes. Qui fait qu'en fin de compte, si t'étais un salarié, si ces boîtes-là, si ces plateformes-là bossaient avec des salariés, elles seraient obligées d'embaucher un espèce d'équilibre, un nombre équilibré de livreurs pour répondre au carnet de commandes, le fameux carnet de commandes. Sauf que là, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Elles peuvent embaucher autant qu'elles veulent parce que les mecs sont payés que quand ils bossent. Quand t'attends la commande, matin, je parlais avec un coursier, il a attendu toute la matinée, il bossait pour Spark. Il a attendu toute la matinée, il a pas été payé. Parce que il était censé avoir des minimums garantis, mais en fin de compte, il avait été déconnecté pendant 30 secondes parce qu'il avait pas de réseau dans un ascenseur. Donc, ça fait comme si c'était déconnecté, volontairement. Donc, c'est une amende. Donc, il a pas été payé. Enfin, c'est hyper compliqué. Même moi, en l'expliquant, là, j'ai du mal à comprendre. Il faut savoir que tout est fait au niveau des plateformes pour que la façon d'être payé, surtout au niveau des bonus et des primes et des choses comme ça, soit super compliqué à obtenir. Donc, elles font un peu ce qu'elles veulent avec les tarifications baissent au fur et à mesure, et tu te retrouves en fin de compte à être un produit, une marchandise, c'est l'offre et la demande en fait. Plus il y a de coursiers, moins t'as de blé, et moins tu peux l'ouvrir en fait, moins tu peux plus t'oublier de fermer ta gueule, parce que de toute façon, t'es gentil, on a 50 qui attendent, quoi. Donc, tu sais quoi, tu vas bosser. Au début, tu dis, si tu veux. Enfin, moi, j'ai bossé pour 2 000, 2 500 euros par mois. Et puis après, 1 000, après, j'ai arrêté. J'ai levé le pied. Mais bon, voilà, plein de gens ont commencé à 2 000, 3 000 euros par mois à en faire du vélo dans Paris, parce qu'il y a beaucoup, où en effet, il y avait beaucoup de commandes à Paris, imagine. Et les mecs, plus ça va, moins ils gagnent, quoi. Et pour essayer de gagner avant, il faut qu'ils roulent plus. Donc, c'est travailler plus pour gagner moins. Allez, voilà, on va la faire courte. Voilà, travailler plus pour gagner moins, c'est ça les plateformes. Il y a pas de droit, il y a pas de protection, il y a rien du tout. C'est tu bosses, tu roules et puis surtout tu fermes ta gueule, quoi. Parce que si tu l'ouvres, ben, tu te fais dégager parce qu'il y a un mec qui te balance, parce qu'il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui dit, qui l'a vu, qui l'a entendu. c'est le jeu du chat et de la souris, quoi. Et, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Tous les mecs qui montent des collectifs en province se font dégager, se font désactiver, en fait, voilà. Un jour, il essaye de se connecter. Il a même pas reçu de texto, même pas de lettre. Avant même de recevoir la lettre commandée, il essaye de se connecter. Il a plus accès au truc, quoi. Il appelle la plateforme, dit « Ah bah oui, on t'a désactivé. Pourquoi ? Bah tu recevras la lettre commandée. Au revoir. »
Oui, parce qu'en fait, oui, ce mythe de la liberté et même de l'auto-entrepreneuriat, il prend assez fin rapidement parce qu'en fait, le patron, il existe, il fait 10 cm sur 12 et il est dans ta poche, quoi. C'est ton téléphone.
c'est la fameuse phrase de Mélenchon qui m'a piqué. Ouais. Les mecs disent qu'ils n'ont plus le patron sur le dos. C'est le schéma, en fait. Ouais, mais quand je suis auto-entrepreneur, j'ai plus mon patron sur le dos. Donc déjà, le type, ça, il a une glacière de 7 kilos dans le dos, grand comme lui. Avec marqué Deliveroo de tous les côtés, donc j'ai plus mon patron sur le dos. Ouais, bon, faut voir. Et puis surtout ton patron, c'est plus là dans ta poche, quoi. Ton patron, c'est lui qui piffe. Le mec dit ouais, mais non, mais je fais ce que je veux. Hop, excuse-moi, mon téléphone sonne, je dois aller bosser, quoi.
Ouais.
C'est, voilà. non, le patron sur le dos, c'est pire que ça, parce que de l'avoir dans la poche, c'est encore pire. Et puis en plus, tu rentres chez toi, t'as oublié d'éteindre ton appli, les mecs savent ce que tu fais. On l'a vu avec Uber qui trace les clients même après avoir déconnecté, même après être arrivé, même en dehors de la course. C'est hyper intrusif en fait comme application. Donc c'est pire que de bosser dans le bureau à côté de celui de ton patron. C'est qu'un mec qui sait exactement ce que tu fais. Et il sait alors que tu te lèves, enfin, sans aller jusque-là. Pendant que tu travailles, ton boss, il sait où tu es. Évidemment, c'est la base pour t'envoyer les commandes. Il sait à la vitesse à laquelle tu roules. Il sait dans quel sens tu vas. Il sait qui tu croises. Parce que hop, deux petits points verts qui se croisent, bim, sur l'application, dans l'algorithme. Bon, ils savent que machin et bidule ont discuté pendant 5 minutes. Quoi. C'est intrusif. Donc évidemment que la liberté, faut arrêter. C'est la liberté de se faire enfler quand on veut, quoi.
Bah c'est la liberté du renard dans le poulailler, quoi.
Ouais, ça. Voilà. C'est la liberté commence là où ça reste des autres. Donc, à partir du moment où tu as des milliards, t'inquiète pas que la liberté, toi, tu l'as, mais en face, non pas, quoi.
Ouais. Ben, je pense que ouais, effectivement, il faudrait aussi qu'on traite ça, toute cette partie-là, l'utilisation des métadonnées, le recyclage qui est fait de celles-ci, leur vente, leur stockage, leur gestion, qui est un aspect extrêmement important dans le capitalisme aujourd'hui. Même si on reste sur ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire l'utilisation des technologies entre guillemets nouvelles par ces nouveaux intermédiaires que sont les opérateurs numériques, les opérateurs de plateforme, à la fois pour s'accaparer une partie de la chaîne de valeur au détriment des intermédiaires traditionnels, c'est aussi une forme d'économie qui est, que tu l'as dit au début de ton intervention, une espèce de retour au 19e siècle. Alors,
mais complètement. Le pire, c'est que les détracteurs que j'ai parfois en face de moi, des pros en fait, des libéraux, des pros plateformes, me disent oui, mais Jérôme, on peut pas voir la vie de maintenant avec des concepts anciens.
Ouais.
T'imagines, le mec qui me dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie, l'économie qui repose sur des process de 150 ans, tout ça, en fin de compte, ça n'a pas de valeur. Donc, en fin de compte, le présent n'existe que le présent dans le monde du travail et de l'économie et éventuellement un futur par les plateformes. Mais surtout, n'allez pas chercher des luttes sociales, des choses comme ça ailleurs, quoi. T'imagines, on peut plus rien penser. La littérature, tout ça, enfin, tout le système éducatif d'assimilation, en fait, de transmission de l'expérience, on va le chercher où, si ce n'est dans le passé, ne pas reproduire les erreurs du passé, parce que voilà, ça fait des dizaines d'années qu'on mange tout un tas de choses pour pas faire les mêmes erreurs.
Ça
marche pas.
Non, ça s'évapore. Ouais. Alors justement, comment on fait pour s'organiser et quels sont les moyens et les méthodes de lutte que les différents collectifs ont pu trouver? Parce que en tant qu'entrepreneur, en gros, la grève, si tu bosses pas, etc., tu te nuis d'abord à toi-même. Qu'est-ce que vous avez réussi à trouver comme forme de lutte, hein?
La lutte, pour l'instant, on essaie déjà de la structurer. Pour l'instant, on a fait des trucs un petit peu, je veux dire, à l'arrache, même si on essayait quand même de faire des choses un peu glamour avec des jolis tracts, tout ça. Bon, ça a du mal à prendre parce que c'est pas structuré. Et là, je le dis, les plateformes m'entendent, elles vont rigoler. Mais, depuis qu'on est parti sur l'idée de la syndicalisation, pour de vrai, ce que je disais tout à l'heure, des grosses machines vont rentrer dans le game, et là, ça va plus du tout être la même, quoi. Pour l'instant, on a bricolé. On a essayé de faire nos trucs un petit peu à la sauce libertaire, on va dire. Mm-hmm. Mais bon, on a vu qu'on perdait plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Là, maintenant, on va faire rentrer les syndicats dans le game, et ça va plus du tout être la même, quoi. Parce que voilà, il n'y a pas de secret. De toute façon, le monde, il est social. Ces boîtes-là reposent sur du numérique. Qu'est-ce que le numérique a engendré? L'hyper-prédation spéculative capitaliste, mais aussi les réseaux sociaux. Et t'inquiète pas qu'au niveau, que je dis, dans réseau social, il y a réseau et il y a social. Tu sais quoi? Tu mets du numérique, tu mets un truc facile, machin, à utiliser. Ok, il y a des boîtes qui l'utilisent. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui se mettent à développer des trucs dans leur coin, machin, donner des idées. Il y a un mec qui l'a fait tout seul dans sa chambre en quelques mois. Une plateforme, une application, un site web, elle est prête à être utilisée. En fait, elle est en bêta test. Il nous a mis la démo il y a quelques jours sur les groupes de discussion. C'est super, le mec il a fait ça dans sa chambre, quoi. Donc voilà, c'est facile à... Le numérique est super facile à se réapproprier, d'autant plus qu'il a été fait pour nous, quoi. Il a été fait pour les gens, pour justement simplifier tout un tas de choses. Les plateformes ont essayé de le récupérer comme un outil de spéculation, d'aliénation, de marchandisage, de marchandage d'être humain, mais bon, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce que ce qu'on a compris, justement, je reviens tout à l'heure à mon petit cours d'histoire, ce qu'on a compris dans les luttes sociales, ce qu'on a mis 150 ans à comprendre avec l'industrialisation, la mécanisation, les machines à vapeur, ce qu'on a mis 150 ans à comprendre qu'il fallait aller vers du salariat, vers de la solidarité, vers de la redistribution, vers des protections sociales. Là, en 3 ans, avec la vitesse du numérique, avec le cynisme aussi des plateformes qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pris en compte la dimension sociale, humaine et de ça, là, on est en train de tout récupérer, en fait, tout très très vite récupérer au niveau des luttes sociales. C'est la même chose qu'il y a 150 ans, mais à la sauce 4G. Donc, un réseau social, deux réseaux, un collectif, deux collectifs, 10 collectifs, une réunion via Skype, un groupe WhatsApp, et puis voilà. Et puis, bon, on va arriver à des billets de train quand même, parce qu'il faut qu'on se rencontre aussi dans le réel. Mais à partir du moment où on va se rencontrer dans le réel, les plateformes seront mortes. Elles le savent pas, mais moi, je peux te le dire, c'est chaud pour eux, quoi, pour elles.
C'est ce que tu disais au téléphone hein, tout à l'heure. Essayer de protéger par des mandats syndicaux, puisqu'il y a encore un peu de droits dans ce pays, donc il faut bien les sûr. Utiliser.
Il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine.
Il y en a encore quelques-uns.
Mais parce qu'on essaye de nous dire non, c'est pas, oh là là, le code du travail, c'est pas pour vous, vous êtes indépendants.
Oui, bien sûr.
Sauf que nous, on est des salariés, on le sait pas, on est des salariés déguisés. Il y a tout ce qu'il faut dans le code du travail pour nous défendre.
Et je sais pas si tu as eu des échos et si tu as entendu parler de ces luttes qui a eu lieu dans d'autres pays, hein, à Londres pour Deliveroo, je pense bien, et à Turin pour Foodora, hein, des gens comme tu disais qui ont récupéré, retourné les armes, en gros utilisé leur téléphone et les applications type WhatsApp pour échanger, et puis se rendre compte que effectivement travailler à Milan, travailler à Turin, ben t'étais pas payé pareil quoi, donc essayer d'avoir au moins un cadre essayer de commencer à conquérir des droits et puis se déconnecter au moment des espèces de formes de grève numérique et tout ça. Pour le moment, c'est des choses qui ont été essayées en France, qui ont été tentées. T'as des échos là-dessus?
Tu parles de mouvements
qui ont essayé un petit peu de monter.
On a essayé, mais en France, le revers de la médaille de notre système français, c'est qu'en France, on est un petit peu dans une casserole avec le feu qui monte tout doucement, parce que grosso modo, on est bien payé, on n'est pas dans un pays hyper libéral.
Ouais.
Mais donc, les plateformes sont obligées d'y aller doucement. Et puis en plus, bon, il y a quand même les collectifs qui sont là pour surveiller ce qui se passe en Angleterre ou en Italie. Elles y sont allées de façon complètement décomplexée, quoi. Évidemment, Deliveroo est une société britannique, donc là-bas, le libéralisme, la liberté, entre guillemets, ils sont allés franco, quoi. Un jour, ils se sont dit, bon, bah, vous savez quoi, ça va être trois livres à la course. Bah, les mecs, je crois que c'était à 4 livres. Ils se sont dit, mais vous allez où, quoi? Et donc, les mecs, à Londres, le berceau du libéralisme, hein, la révolution industrielle, pas la révolution française, la révolution, les mecs, on fait grève, quoi. Deliveroo, ils sont arrivés sur une place, il y avait 150 mecs sur des scooters, le type est arrivé, il est reparti la queue entre les jambes, il s'est excusé, quoi. Non, mais excusez-moi les mecs, c'est pas vraiment ce que vous croyez, je vais vous expliquer, patata, excusez-nous, on va pas le faire, on va plus le faire. Ils ont gagné du temps comme ça, parce que les Anglais, tu tapes pas au chiffre d'affaires, quoi. Nous, en France, on a quand même l'idée, machin, du salariat, des protections sociales, donc c'est beaucoup plus difficile chez nous à mettre en œuvre que ce cynisme, en fait. Donc, les plateformes, ils vont un petit peu sur des œufs. Mais à chaque fois que les plateformes font une connerie, on les loupe pas, quoi. Il n'y a pas très très longtemps, Deliveroo, j'étais au courant, parce que ils ont des taupes, mais j'en ai aussi. J'étais au courant qu'ils voulaient faire un système de 4,75€ la course. 4,75€ la course, alors au lieu de 5,75€, en libéralisant en fait complètement le travail. Avant, pour travailler chez Deliveroo, il fallait s'inscrire sur une plateforme, sur des shifts en fait, sur des créneaux horaires. Après, ils ambitionnaient de supprimer ça, n'importe qui pourrait travailler n'importe quand, mais par contre, le prix de cette liberté encore plus, ce serait ben, moins 1€ sur la commande. J'ai balancé l'information, ça a super buzzé sur les différents collectifs. Et il y a un mec des plateformes qui a dit « Oui, mais non, c'est pas vrai, on va pas le faire, c'est du mytho, patati patata, c'est pas vrai. » Bon, en attendant, ils ont gagné un petit peu de temps, mais j'ai entendu quelques jours un type qui était en train de tester ce process-là, quoi, ce procédé-là. Donc bon, on est là, on veille, on va dire pour l'instant, on n'est pas aussi actif qu'à Londres et Turin, parce que on est plutôt dans une politique, je suis dans une politique plutôt d'observation, mais bon, je suis sur mes gardes. Mais là, ceci dit, par rapport à tout ce qui qui s'est passé, ce que j'explique tout à l'heure, des leaders locaux qui se font dégager, là, on va rentrer dans une dimension beaucoup plus fight et je dis fight, tu vois, moi aussi j'en ai beaucoup plus fight. Là, je pense qu'elles ont touché à quelque chose de fondamental qui est justement un droit fondamental et constitutionnel, le droit de se fédérer, le droit de se réunir en association, choses comme ça. Et ça, par contre, les syndicats, la CGT en tête, hein, pas que je veux les vendre, mais c'est que c'est les plus réceptifs.
C'est sûr, on a bien vu.
Là, ils ont mis le doigt sur quelque chose, ils disent hop, on touche pas au droit de syndicalisation, au droit d'association, au droit de regroupement, parce que c'est constitutionnel, quoi. Mmh. Mais les startups, elles savent même pas ce que c'est, en fait. Elles agissent comme des gosses, en fait, qui savent pas, qui connaissent pas les règles. Moi, j'ai travaillé dans les centres de loisirs avec des jeunes, ben, quand je mettais pas en place des règles dès le départ, ben, c'était le tawa, quoi. Et je m'en suis, je l'ai payé des fois cher, quoi. Donc, faut mettre des règles. Et les plateformes, elles en ont pas, elles font ce qu'elles veulent. Sauf qu'en face, elles ont pas que des petits poulets sur des vélos. Elles ont quelques personnes qui ont été contactées, qui sont très, très conscients de ce qu'est le droit du travail, que c'est que la régulation. Et voilà.
Oui, parce que tu disais, hein, tu parlais de Turin et de Londres. Bon, alors évidemment, il y a des cadres qui sont différents, et tu disais que les plateformes étaient moins outrancières, c'est vrai. Bon, alors il y a aussi la loi, hein, qui a été changée. Hein. En Italie, il y a eu le Job Act, ouais, qui a permis tout ça. C'est une sorte de super loi travail qui est passée. Et donc pour dire, et puis bon, il y a les cadres, hein, aussi, c'est-à-dire que on est à 40% de chômage, hein, chez les jeunes en Italie, ouais, entre 15 et 25. Résultat, ça te fait des travailleurs à 5 € de l'heure, quoi. Et tu parlais de Londres, 3 €, 3 livres de l'heure, quoi. Voilà, c'est ça la réalité en Europe, hein. On n'est pas en train de parler du Bangladesh ou tout ça, hein, de l'autre côté de la Manche. Donc 3 € de l'heure, vous imaginez les conditions qu'il faut pour pouvoir avoir un salaire décent. Et en plus, comme on est autant entrepreneur, si on se pète la gueule et si on pète son vélo, eh ben, on n'a plus rien. Et alors, ce qui est intéressant, tu le disais, et on essaiera de conclure là-dessus, c'est qu'il y a toute une génération de gens qui se sont trouvés avec une culture urbaine, avec une culture du numérique, avec une culture des nouvelles technologies, et qui en 3 ans ont fait un chemin qui est extrêmement important, avec une espèce, tu l'as dit, c'est intéressant, d'échange et dialogue entre quelque part un mouvement ouvrier traditionnel et ancien, et aujourd'hui un mouvement ouvrier, parce que je vous considère comme des ouvriers, comme des travailleurs, contemporain, qui pourrait s'appuyer là-dessus, quoi, justement dans ce qui pourrait être de la précarité et tout ça. Et donc, quelles vont être les prochaines échéances pour vous? Tu parlais de cette répression-là, et puis tu parlais aussi de la possibilité de former un projet collectif qui permette à la fois de garder ce statut d'indépendant, de garder cette culture du biking, parce que tu l'as dit, ta motivation première au départ pour bosser, c'était de faire du vélo en ville, parce que ça fait partie d'une culture urbaine, quoi. Et vous étiez sur un éventuel projet de coopérative. Alors, je te repose ma question, parce que je me suis un peu perdu dans mon tunnel. C'est quoi la situation aujourd'hui des livreurs au niveau de la lutte, hein? Je crois que demain, vous voyez pour justement parler de la répression. Et puis, est-ce que tu peux nous décrire ce projet de coopérative?
C'est un gros projet. En fin de compte, j'ai travaillé là-dessus, parce que une première chose qu'on m'a opposée par rapport à ce que je dénonçais, c'est la phrase type, c'est ouais, mais tu vas péter le business, hein, en admettant que tu fasses des procès, que tu les gagnes, qu'on soit tous requalifiés, les boîtes pourront pas l'encaisser, donc elles vont disparaître. Donc oui, le fait est, au début c'était pure fight, et après il a fallu que je travaille sur une espèce d'alternative, en fait. Et l'alternative idéale pour rester dans un système quand même de liberté. La liberté, en fin de compte, c'est pas travailler quand on veut, autant qu'on veut, comme on veut, c'est décider des axes de sa société. C'est de la démocratie, en fait. La liberté, c'est de la démocratie. Elle est réelle, en fait. Elle n'est pas oligarchique. Et donc, je me suis penché sur tout un tas de problématiques. J'ai tapé des mots sur Google. Et puis, je me suis souvenu d'un monsieur qui s'appelle Franck Lepage, qui avait monté des spectacles entre politique et One Man Joe. Et ce monsieur travaillait sous un statut de SCOPE. SCOPE, je savais pas ce que c'était, je me suis renseigné. De SCOPE, je suis arrivé à coopérative d'intérêt collectif, des STIC. Et là, je vous la fais super courte, ça m'a pris un an et demi. Et donc, en fin de compte, j'ai découvert le monde de ce qu'on appelle l'ESS, l'économie solidaire et sociale, qui est en fait l'outil idéal pour nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui repose sur du local, sur du social, et sur de la solidarité, c'est-à-dire que tous les gens sont salariés de la coopérative, sont surtout sociétaires, enfin peuvent être sociétaires, tous ne le sont pas, mais c'est un choix, justement, encore la liberté, pour le coup, la vraie. Donc tu t'aperçois s'aperçoit que l'économie solidaire et sociale, elle répond à toutes les problématiques qu'on a, nous, livreurs à vélo. On est des gens qui appartiennent au tissu local, évidemment, à un commerce local et une clientèle locale. C'est quelque chose qui n'est pas délocalisable. C'est la base, ouais. C'est comme si l'ESS, on a dit, en lieu, j'ai rencontré des gens très très importants de l'économie solidaire, on dit, c'est comme si ce truc-là avait été fait pour vous, quoi. Donc, à partir du moment où on a un outil, c'est même, on doit même pas l'inventer, en fait. Il existe déjà. Il suffit juste d'aller le chercher. Et après, de le mettre à notre niveau. Et donc ça se fera, ça se fait aussi petit à petit par rapport aux gens que je rencontre, avec lesquels je suis en contact. Mais bon, plus ça va, plus les choses s'accélèrent, parce que même si j'ai mis du temps à créer ce réseau, voilà, il se densifie et il se ramifie. Et c'est de plus en plus palpable, en fait, cette histoire d'économie solidaire et sociale, de coopérative de livraison à vélo. J'ai une réunion le fin avril avec la mairie de Paris, voilà, sur un échange que je pense, à mon sens, très constructif sur la venue dans la mairie de Paris dans le game, pour justement essayer de travailler sur une coopérative, parce que l'avantage des SCIC, des ce qu'on appelle les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est que peuvent être partenaires de cette coopérative une collectivité territoriale. Et bon, à Paris, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la ville de Paris. On avait été pas mal aidé par Daniel Simonet, qui est conseillère à la ville de Paris, conseillère Donc voilà, elle avait un petit peu, nous avait permis de proposer un projet à la ville de Paris qui avait été retenu au mois de septembre 2016. Donc voilà, la mairie de Paris est dans le projet. Donc j'ai envie de dire, la ville Anne Hidalgo se déclarait il y a quelques mois vouloir être la capitale du vélo en Europe, et puis il y a quelques semaines se déclarait la même Anne Hidalgo vouloir être la capitale de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Moi, dans ma tête, je me suis dit, purée, si on n'y arrive pas à faire une coopérative de vélo à Paris, mais c'est juste qu'on est des branques, quoi. Donc évidemment qu'on va y arriver.
Ben, en tous les cas, ça passera de toute façon par la lutte, hein, je crois, et par effectivement la mise en avant des revendications à l'échelle nationale de toutes ces nouvelles formes de travail et de ces nouvelles formes de livraison, quoi. Il nous reste quelques minutes avant qu'on écoute un peu de musique. On va écouter Biking, justement, des Tugs. Pourquoi pas? Est-ce que je te laisse la conclusion, toi où tu en es et éventuellement. Peut-être un petit mot pour les livreurs à vélo qui nous écouteraient sur leur vélo à Reims ou à Toulouse ou à Montpellier, pour leur dire pourquoi c'est important de se poser la question et d'essayer de revendiquer un peu ses droits.
La seule chose que j'ai à leur dire, c'est comment tout a commencé. Rien de tout ça aurait été possible, de ce que je fais, sans dès le départ avoir senti un truc chelou. Et dès le départ, j'ai pris des numéros de téléphone, dès le départ, j'ai pris des contacts. Dans la première boîte dans laquelle j'ai bossé, chez TED Talk, on parlait pas de réseaux sociaux, on parlait pas de Facebook, j'ai pris des numéros. C'est ce qui m'a permis d'emmener des mecs au Prud'homme, on est allé à 10 au Prud'homme, voilà. Et ensuite, les réseaux sociaux sont en game. Partez du principe que, de toute façon, vous faites un métier, il y a un esprit autour du vélo, il y a un esprit autour de votre métier. Vous prenez des risques tous les jours. Il y a une solidarité qui se crée naturellement quand on se retrouve sur une place. Cette solidarité fait le tissu, c'est le tissu du métier, en fait. Et c'est ce tissu qu'il faut faire attention à préserver et à entretenir. Donc, allez vers du collectif, réunissez-vous, discutez entre vous. Faites gaffe aussi, parce qu'il faut y aller les balances. Mais bon, voilà. Allez vers du collectif, parce qu'il n'y a que comme ça que le jour où, à Reims, c'est peut-être encore trop tôt, mais à Reims, quand ils vont baisser les tarifs ou quand ils vont augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup le nombre de livreurs et que vous serez payé de moins en moins, vous aurez besoin, à ce moment-là, d'avoir déjà un outil collectif, hein, une plateforme, un groupe, un truc comme ça, un groupe WhatsApp ou je ne sais quoi, pour communiquer, pour mettre en place des actions. Et puis, bien sûr, je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle YouLive, donc U-L-I-V-E, l'union des livreurs à vélo engagés, parce que c'est important, engagés. Et donc voilà, à partir de là, il y a toutes les infos, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les structures qu'on va mettre en place. Et voilà, on va y arriver, on va se protéger les fesses, parce que c'est important pour un vélo.
Ouais, c'est clair, tout seul, c'est difficile, à plusieurs, on peut déjà commencer à s'organiser.
Tout le jeu des plateformes est de jouer sur l'individualité, en fait.
C'est clair.
Et tout le mien est de resolidariser tout ça. Ouais.
Jérôme, merci beaucoup. Ne quitte pas, moi je vais t'en prendre en terre. Et puis nous, on va écouter de la musique.
Merci. À plus.
Oui, bah, cette émission était super intéressante, j'ai trouvé, si ce n'est que c'est quand même incroyable que qu'on revienne comme ça en arrière, où effectivement, lui-même, il le dit, finalement, notre première bagarre, c'est de pouvoir être syndiqué, de pouvoir être ensemble, et alors que, on pensait que c'était plus possible, on est arrivé vers une situation tellement individualiste, tellement composé d'individus qui, de toute façon, n'ont rien à foutre du collectif, finalement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu as de toute façon, dans toute nature humaine, il y a un besoin du collectif pour pas te faire bouffer, tout simplement, pour pas en crever, parce que le coup du vélo, prendre son vélo, tu fais pas ça jusqu'à 60 ans, voire 70 ans, puisque maintenant faut bosser jusqu'à 70 ans. En plus, si t'arrives à un pépin, il y en a qui ont des pépins, hein. Ah, lui, il a eu, je crois, il en a pas parlé, mais il a eu 2 accidents, je crois, d'après ce que j'ai pu lire. Et dans ce cas-là, tu vas pas voir, c'est pas un accident du travail, hein. C'est clair.
Je crois que ce qui est intéressant dans cette lutte et dans l'entretien qu'on a eu avec Jérôme, c'est de voir comment, cet épisode, cette marque est vraiment typique à la fois de la lutte de classe et de ce que nous on considère comme étant la crise du capitalisme et de la domination aujourd'hui surréelle du capital sur nos vies, sur nos corps, sur nos esprits, sur la technologie, etc., etc. On aurait tort de l'oublier parce que en France, on a l'impression que on a grandi sous les Trente Glorieuses et qu'on a été encore un peu protégé par des normes sociales. De penser qu'on est sorti de l'histoire, de penser que l'histoire n'existe plus et qu'on est dans cette espèce de petite chose, de petit train-train quotidien. Non, on est dans le capitalisme avec ses contractions, avec ses phases d'expansion, ses phases de restructuration, ses phases de crise. Et dans cette histoire du capitalisme, alors le salariat n'est qu'une petite parenthèse. Faut-il le dire, il a fallu pour pouvoir reconstruire et pouvoir construire cette société dite de droit, qui n'est jamais effectivement trop passée, mais qui a été quand même un certain moment qui a pu exister, à savoir détacher le salariat de l'activité, il a fallu une guerre, deux guerres mondiales, il a fallu des millions d'émigrés qui sont venus pour travailler à bas coût, hein, dans des conditions souvent merdiques. Il a fallu des conditions de travail dégueulasses, avec des conditions d'hygiène et de santé complètement merdiques, hein, dans les grandes boîtes. Et puis, aujourd'hui, les cartes, elles ont été distribuées et on revient à ce qui est la norme, en fait, du capitalisme. C'est-à-dire le travail à la tâche, le fait de pas pouvoir survivre et d'être travailleur pauvre. Je regardais les chiffres, hein, aujourd'hui, on est à plus de 4,5 millions de travailleurs pauvres, dans l'économie sociale et solidaire et dans l'économie associative, les salaires sont faibles, que ça devient de plus en plus dur de s'en sortir et que, effectivement, il n'est pas... imaginez, hein, on parle aujourd'hui d'un SMIC à 1200 euros, c'est 250 euros au-dessus du seuil de pauvreté.
Ouais.
Seuil de pauvreté international. Hein.
Ouais.
Hein, voilà, aujourd'hui, être productif et vendre sa peau, c'est être 250 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Alors, effectivement, l'air du temps plus cadavre, et c'est pas dans 30 jours avec les élections présidentielles, Front de Gauche ou pas, Daniel Simonet ou pas, ou Mélenchon ou pas, que ça va s'améliorer. Mais ce qui est sûr et ce qui est intéressant, et ce que, à mon avis, servait aussi l'interview de Jérôme, c'est de dire que même dans ces situations-là, même chez des gens auxquels on n'aurait pas du tout pensé que c'était possible, eh ben, il y a de la lutte, il y a du collectif et il y a de la conscience.
Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était les Rigors chaque semaine sur les Goliaris Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Jean, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.